Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Panique à bord, l'océan nous mange notre côte et n'y va désormais pas de main morte. Depuis deux hivers, en effet, l'Atlantique ne s'est plus contenté de grignoter la côte de 1 à 3 mètres comme avant, mais jusqu'à 30 mètres en certains endroits de la côte aquitaine. Énorme! Qu'en pensent les scientifiques? Eh bien, ils refusent de céder au sensationnel. Le phénomène n'est pas nouveau, nous dit même Yvonne Batiot-Quenet, présidente du réseau européen des littoraux.
Une érosion, l'origine, elle est très ancienne, elle a toujours existé. Il y a toujours eu vraiment une mobilité de la côte à toutes les échelles de temps. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont installés au bord des côtes. En plus, l'homme a tenté de fixer la côte, alors que naturellement, elle a tendance à évoluer. Naturellement, elle avance, elle recule. Ce qui est nouveau, c'est que l'homme a tenté de plus en plus de fixer ce littoral. Quand vous fixez quelque chose qui est mobile par nature, ça pose des problèmes.
La nature n'est donc pas en train de nous inventer une machine diabolique, nos chères plages ne sont pas coulées dans le marbre, elles sont même naturellement exposées à l'érosion. Patrick Bazin du Conservatoire du Littoral, l'établissement créé pour protéger le littoral, quand justement la loi littorale s'est avérée insuffisante, insuffisamment respectée.
Ce sont plutôt les côtes sableuses. Parce que le sable, c'est meuble. La mer peut facilement l'emporter. Et ce sable, il est fossile. Il a été déposé il y a quelques milliers d'années et il ne s'ancrait plus beaucoup. Si bien que lorsqu'il est enlevé par la mer, il a du mal à revenir. Donc il faut soit essayer de le faire revenir avec des camions ou avec d'autres outils, ce qui est cher. Et lorsque le sable est parti, eh bien, c'est le touriste qui s'en va également. Les falaises de craie aussi peuvent s'éroder. Alors c'est pas tout à fait le même phénomène parce qu'elles se font creuser par en dessous, puis à un moment donné, il y a un pan qui tombe, donc c'est plus spectaculaire. Mais on a vu l'hiver dernier toute la côte aquitaine et la côte vendéenne subir des érosions extrêmement fortes sous l'effet des houles qui ont été très très continues pendant tout l'hiver. Et là, il y a eu des reculs de 15-20 mètres en une seule saison. Les côtes vaseuses, qui sont basses également, sont moins attaquées, voire continuent à s'accroître. Parce que là, il y a des sédiments qui se déposent et permettent d'avancer sur la mer.
Que fait la nature? Eh bien, elle nous démontre, souligne Yvonne Batiot-Quenet, qu'elle sait répondre, par exemple, à une élévation du niveau de la mer.
Certaines côtes se protègent par elles-mêmes. Je pense par exemple aux mangroves. C'est quelque chose de vivant, la mangrove, et ça a la particularité de s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. Pareil pour les récifs coralliens, d'ailleurs. Le récif corallien peut s'élever en même temps que la mer, à condition que l'élévation ne soit pas trop rapide, et à condition aussi que les coraux soient bien vivants et ne soient pas menacés par la pollution. Mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les zones tempérées. Vous avez dans les des possibilités pour ces milieux de s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. Parce que quand les vagues déferlent, ce n'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau qui est chargée de sédiments. Et les estuaires, actuellement, sur toute la façade européenne, ont tendance à se colmater.
La nature sait se protéger de la mer. Eh bien, pour Patrick Bazin, il faut utiliser ce savoir-faire.
Il y a des phénomènes saisonniers. C'est-à-dire qu'en principe, ce qui est perdu en hiver se reconstitue en partie, au moins, pendant l'été. Mais là, tout ce qui est parti, il n'a peu qui est revenu. Cet hiver, vous avez entendu dire qu'il y avait des grandes marées, les marées du siècle, coefficient 119, le coefficient maximal théorique c'est 120, mais il faisait beau ces jours-là et donc il n'y a pas eu de problème. Donc c'est très variable en fonction de la météo. S'il y a des milieux naturels, ce n'est pas très grave que la côte recule. Là où c'est grave, c'est quand il y a des maisons dessus. Donc, lorsqu'il existe des milieux naturels, il faut les préserver pour qu'ils jouent ce rôle de tampon, parce que non seulement eux ne craignent rien, d'une certaine manière, mais en plus, ils protègent ce qu'il y a derrière. Et donc, ils participent à la protection des enjeux humains. Et ce qui est important dans l'affaire, c'est de protéger les vies, avant tout, et protéger les biens, également. Ce n'est pas nécessairement de fixer un trait de côte immuablement.
Mais avouez, il y aurait quelque chose d'injuste. La Méditerranée bétonnée, moins sujette à érosion que la côte atlantique, que la Cano en particulier.
La côte méditerranéenne, elle est en grande partie artificialisée, protégée par toutes sortes d'ouvrages en dur, comme les épis, comme les brise-lames. La Cano, qu'est-ce qui s'est passé? On a construit sur la dune, on a détruit la dune, donc il n'y a plus cette réserve de sable pour rééquilibrer la plage au moment des tempêtes. Le gros problème, il vient souvent de la fixation par l'homme d'un trait de côte qui ne voulait que respirer, avancer, reculer.
La côte bouge et même respire. Dommage de vouloir protéger une plage avec un parapet en béton.
Dans un système où vous avez cette dune vivante, même si le trait de côte bouge, vous avez une plage dessus. Le problème, c'est quand on a fait un parapet en béton et qu'on ne peut plus bouger, évidemment, ce parapet en béton, et devant, eh ben, la plage s'en va. Alors, il y a des solutions de rechargement qui permettent de reconstituer le sable de la plage. Beaucoup de stations le font parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Donc, ça reste une solution plutôt élégante, on va dire, hein, puisque ça permet quand même de préserver la plage, mais ça a un coût. Lorsque l'on a du sable à proximité, ça va. Quand le sable est loin, ou qu'il est cher, ou qu'il y a des protections environnementales dessus, ça devient difficile.
Alors, la nature, bonne ou mauvaise mère, à nous grignoter nos plages comme on vole la part du gâteau. Aujourd'hui, le risque pourrait bien venir d'ailleurs, car le sable n'est pas convoité que par les plagistes, mais par les cimentiers.
Oui, parce que les ressources continentales ont tendance à diminuer. Ils sont de plus en plus difficiles à exploiter, parce qu'on protège l'environnement dans les vallées, par exemple. Donc, les cimentiers convoitent de plus en plus les granulats qu'on peut trouver sous la mer. Et ils savent que les réserves sont énormes. Ceci dit, il y a des inventaires qui sont en train de se faire. Hein. Mais ce qu'il faudrait, c'est essayer de constituer ce qu'on appelle des réserves stratégiques de sable qui ne soit pas transformé en béton. Parce que quand on transforme du sable en béton, il est effectivement perdu. Quand on utilise du sable pour recharger une plage, il n'est pas perdu. C'est juste un prêt qu'on fait. Et ce sable, il va retourner à la mer ensuite si la plage est érodée. Vous voyez, c'est pas la même chose. Un sable bétonné, c'est un sable qui est perdu pour le système côtier, qui est perdu pour la nature.
Le sable, pour faire du béton, la mer n'en manque pas. Nous préférons quand elle refait des plages plutôt que quand elle nous les croque. Mais tant qu'à céder au catastrophisme, les scientifiques préfèrent pointer le risque de la manne qui voit les cimentiers.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.